Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec un extrait des GG. Fallait-il virer la dame pipi de la gare Montparnasse? C'est très sérieux. Émotion sur les réseaux sociaux. Après qu'une employée âgée de 53 ans a été licenciée pour faute grave, la faute en question, cette femme a été filmée en train de prendre 1 euro laissé par un client en guise de pourboire. Pratique totalement interdite par l'entreprise Deutello, ou Toutello, je ne sais pas comment ça se prononce, qui assure le nettoyage des toilettes publiques de cette gare. Du vol pour l'entreprise, une véritable dérive dangereuse pour le docteur Jérôme Marty. Il était ce matin donc dans les GG.
On est en plein dans les dérives de nos sociétés avec la financiarisation, quoi. Et l'exploitation d'un certain nombre de salariés dans des systèmes où on se fout éperdument à la fois et de la santé, du bien-être et de la qualité de travail et de tout ce qu'on veut, quoi. C'est un euro pris par une dame et on la vire. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de papier donné, il n'y a rien.
L'entreprise affirme que la société ne fonctionne pas avec un système de pourboire.
Oui, elle fonctionne pas.
Les employés doivent verser les pourboires dans la caisse.
La société, elle prend la sous-traitance des toilettes de la gare...
Montparnasse.
Une trentaine de gares au total.
Une trentaine de gares, ce qui prouve quand même, si elle le fait, comme la société n'est pas bienfaitrice de l'humanité, on peut supposer que ça lui rapporte. Et pour rapporter genre de choses, on ne paie pas ses salariés ou on les paie mal, on les fout dehors facilement, on ne respecte pas forcément les lois du travail, mais ça on le verra puisqu'elle va au prud'homme, je crois.
Anne-Sophie Saint-Père.
Alors, à mon avis, si cette histoire est telle qu'on nous la raconte, ça va pas bien tenir au prud'homme. L'employeur risque de se faire condamner. D'autant plus que, même imaginons que, enfin, je veux bien entendre, qu'il y a des règles sur les pourboires, mais en fait, il y a toute une gamme de sanctions en licenciement, donc ça me paraît tout à fait exagéré. Cette dame a bien raison d'aller au prud'homme.
Même, je pense que ça sera très compliqué parce que un licenciement pour faute grave, normalement, c'est justifié par un comportement du salarié qui constitue une violation sérieuse et immédiate de ses obligations contractuelles, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Pour prouver que cette situation...
Parce que même si le fait de percevoir des pourboires est interdit...
Alors après, on ne connaît pas le dossier, on ne connaît pas la situation. Ouais. Il y a peut-être un contentieux entre cet employé et son employeur ou son chef direct. Enfin, il y a plein de choses qui font que il faut effectivement que la procédure suive son cours. J'espère pour elle qu'à 53 ans, elle va retrouver du travail et que son licenciement sera évidemment invalidé.
Ouais, ça, le problème, c'est Daniel. C'est typiquement le genre d'affaires sensationnalistes qui donnent des conclusions un petit peu hâtives parce que, vous l'avez dit, on n'a pas tous les tenants et les aboutissements. Et le raisonnement de Jérôme Marty, je ne le comprends pas. Si le problème, c'est 1 euro ou c'est quoi? Ou c'est le principe qu'on ne vole pas et on ne fait pas quelque chose qui n'est pas prévu par son contrat de travail? Si elle avait mis en place, j'en sais rien, un détournement sur un an de 10 000 euros ou 2000 euros, on aurait plus justifié. Non, il faut voir quelles sont les règles. Il faut, comme a dit Anne-Sophie, qu'on aille voir si au prud'homme il s'est... Carrément, Marty, il accuse l'entreprise de mal se comporter, limite de détourner des fonds, d'exploitation. Enfin, le sensationnalisme que j'évoquais, c'est parce que c'est un métier difficile et que c'est pour 1 euro ce qui semble être une misère. Et que donc l'affaire n'est pas grave. Évidemment, là-dessus, on va tous dire c'est quoi de pas hallucinant, tu vires pas quelqu'un pour ça.
C'est ce que tu veux dire, de la conclure que tous les patrons sont devenus inhumains, que les grandes entreprises se comportent comme des voyous.
Et ça,
voyous.
Je suis absolument d'accord pour avoir ce point de vue-là. Et de me pencher sur le truc, je dis, attends, c'est l'histoire, elle semble complètement dingue. Tu vires pas quelqu'un pour ça, pourquoi elle l'a fait, pourquoi pour si peu. Voilà. Donc, on n'a pas, elle va se défendre, j'espère qu'elle pourra surtout se défendre, et qu'on voit si le licenciement est justifié ou non. Derrière, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? A priori, non. A priori, j'ai du mal, moi, tout le temps du mal à envisager qu'il y ait un détournement de grande ampleur pour une affaire pareille. Mais je trouve qu'on va un petit peu vite et qu'il y a des conclusions, en revanche, qu'on ne peut pas entendre. C'est pas genre, c'est pas grave parce que c'est si et c'est pas ça. Une règle est une règle. On ne pique pas dans la caisse, quoi.
Apolline Matin, le voyage du président chinois en France vous rend-il fier? Le déplacement officiel, voilà une visite en tout cas qui fait parler, arrivé hier. Xi Jinping se trouve aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées en compagnie du couple Macron. En ce moment, il déjeune au restaurant de l'étape du berger dont le chef s'appelle Eric Abadi. Il est passé au standard d'RMC ce matin, au 32-16, et il nous a dévoilé le menu du jour.
On va mettre de la garbure, de l'agneau de lait confit. Ce qu'on fait habituellement, on a des produits qui sont
qui sont reconnus au niveau international, puisqu'on a le porc noir, c'est un des meilleurs champions au monde. Oui. Donc après, bon, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin de tout ça, donc on met nos produits en avant.
Bon, ce déjeuner, Thierry Moreau, il est anecdotique, mais la vraie question, on est en pleine réelle politique, comme on dit. Là, on vient d'apprendre que la Chine allait ouvrir grande ses portes au porc, volaille française. Hier, c'était le cognac. Et la Chine, en tout cas le régime chinois, évidemment, le régime chinois n'est pas un régime comme un autre. Est-ce qu'on doit frayer avec ce type de régime?
C'est pour ça que c'est difficile de répondre à une question fière ou pas fière. En fait, la question, elle n'est pas là. Elle est qu'aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur dans plein de choses. Et sur le plan économique, vous l'avez dit, sur le plan militaire aussi. On sait que les relations avec la Russie font que c'est un acteur majeur.
Mais est-ce qu'on est obligé de...
On ne peut pas faire autrement.
Non, c'est pas ça. C'est de ce déplacement dans les Pyrénées.
Quitte à recevoir...
Déjeuner...
Non, mais à partir du moment où on décide de recevoir, pour ce qu'on appelle, sur le plan protocolaire, une visite d'État...
On peut pas le faire sobrement.
C'est ce que j'allais dire. Une visite d'État, c'est un truc protocolairement qui est extrêmement établi. Ça dure 3 jours, il y a un certain nombre de fagnons qui sont sur les Champs-Élysées, etc. C'est très codifié, la diplomatie. Donc, soit on met les petits plats dans les grands, et on fait donc la visite d'État comme elle doit être faite, avec tous les us et coutumes de la diplomatie, soit on le fait pas. Mais si on le fait, faut y aller franco. Donc autant effectivement le faire goûter nos spécialités, essayer de décrocher des contrats, discuter avec lui, essayer d'infléchir certains trucs sur la politique internationale, sur les droits de l'homme, on fera pas grand chose parce qu'il fait ce qu'il veut chez lui.
Anne-Sophie.
Alors, je ne peux pas dire que ça me rende fière, parce qu'effectivement, on est tous bien conscients du bilan en matière de droits humains en Chine. Et j'espère que le président Macron trouvera un espace pour évoquer la répression des Ouïghours, pour évoquer aussi l'écrasement des militants à Hong Kong. Il y avait de grandes manifestations qu'on avait largement soutenues. Et la Chine a fait adopter une loi sur la sécurité intérieure, sur la sécurité nationale qui muselle toute opposition à Hong Kong. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura un espace. Ensuite, effectivement, tant qu'on ne rompt pas les relations diplomatiques, on a des relations diplomatiques. Je suis un petit peu sceptique sur le fait de se rendre économiquement dépendant de la Chine. Alors évidemment, on l'est, hein, mais en tout cas de renforcer cet aspect-là, parce qu'on sait que c'est un pays qui est une dictature, qui viole les droits humains, et qu'il est mieux d'avoir le moins de dépendance possible si à un moment on a besoin de sévir.
Daniel.
Ah, comme à chaque fois qu'il y a un chef d'État qui vient en visite officielle, on a tout le temps les polémiques. Alors, il nous faut d'abord sortir la liste des pays fréquentables. Ça, on l'a toujours.
Après, Daniel, on l'a moins avec l'Allemagne, par exemple.
Tu admettras que le régime chinois n'est pas un régime comme les autres.
Et bien sûr que je l'admettrai sans problème. Mais il nous faut la liste des pays fréquentables, qui n'est pas très très longue. Hein, mais de toute façon, je pense que nous, on doit être sur une liste de pays pas fréquentables pour d'autres. Mais on est toujours là à donner des leçons. J'ai entendu M. Glucksmann ce matin, candidat qui monte, PS, en vue des Européennes, donner la leçon et faire la liste de tout ce que la Chine fait de mal. Je pense que s'il était gouvernement, il ferait à peu près la même chose. Hein, et il inviterait le président chinois et puis il mettrait les petits plats dans les grands de la même façon, parce que c'est effectivement la réelle politique et qu'on n'est pas là tout le temps pour donner des leçons à ce que font les autres dans le monde, surtout quand ils sont plus gros que vous. Donc moi, pour répondre directement à la question, j'aime voir quand la France est capable de recevoir de cette façon, quand je vois défiler des grands chefs d'entreprise, des acteurs, des réalisateurs, des comédiennes qui représentent la France dans le monde. J'aime encore savoir avec surprise que Mireille Mathieu est une idole en Chine. Je pensais que c'était fini. Ben non, donc elle était là. Et visiblement le président chinois cachait sa joie parce qu'il sourit pas des masses, hein. On n'arrive pas trop à savoir si ça lui fait vraiment plaisir. Je me demande toujours dans ce cas-là si le chef qu'on a eu à l'antenne il y a 2 minutes, il demande à un homologue en Chine, parce qu'il peut pas lui non plus servir un truc, t'imagines, il dit j'aime pas l'agneau moi. Ah non, on serait un peu dans la merde s'il disait ça. Ouais. Donc j'imagine qu'il prend des notes, on doit lui dire le président aime ça.
Le protocole s'en charge.
Voilà, et puis après il fournit à peu près ce que la France peut faire de mieux dans le domaine. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Après, savoir s'il va lui glisser un mot sur les Ouïghours, on est tous d'accord pour dire que ce serait très bien de le faire. Mais que s'il le fait et que le président chinois il en a rien à cirer, il en aura rien à cirer, quoi. Donc voilà, ça fait, c'est le jeu diplomatique. Je pense que on donne, on prend, on donne un bout, on prend un bout, et que chacun essaye de faire un pas vers l'autre, et que l'important surtout, c'est plutôt d'essayer d'être bien avec avec le président chinois, parce qu'on sait que l'axe qu'essaye de construire la Chine avec la Russie, il est un peu inquiétant, il est pas en notre faveur, et que donc il faut pas vraiment se brouiller avec le président chinois, et qu'il vaut mieux lui servir un bon agneau, et que si Mireille Mathieu lui chante une petite chanson à la fin du repas et qu'il est content, eh ben, on ira tous se coucher en se disant qu'il
peut y avoir
un peu plus de paix dans le monde.
Apolline Matin, grand amoureux des livres.
On peut l'espérer, Thierry. Je dis pas que c'est, hein. Voilà.
Apolline Matin, donc, grand amoureux des livres, homme de télévision passionnant, Bernard Pivot, est mort hier à 89 ans. On voulait revenir. Écoutez, l'homme de Nicolas Poiré, l'hommage de Nicolas Poincaré ce matin. Il revient sur les moments forts de l'émission culte, apostrophe, évidemment.
Oui, apostrophe a duré 15 ans, de 1975 à 1990. Le 11 avril 1975, Bernard Pivot reçoit Solzhenitsyn pour l'archipel du Goulag. L'écrivain russe raconte l'univers concentrationnaire soviétique. À partir de ce jour, les communistes français ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Un mois plus tard, Pivot reçoit un autre écrivain russe, Nabokov, l'auteur de Lolita, qui fait semblant de boire du thé, mais on lui sert en réalité du whisky, et il termine l'entretien complètement bourré. En 1978, c'est un écrivain américain, Charles Bukowski, qui quitte lui aussi le plateau en titubant et en insultant tout le monde. On peut aussi se souvenir des numéros de charme de Jean d'Ormesson, ou bien du jeune philosophe inconnu avec sa chemise grande ouverte, c'était Bernard-Henri Lévy, ou bien encore d'une des dernières émissions, sans doute celle dont Bernard Pivot était le moins fier. Gabriel Metzneff se vantait de ses conquêtes de très très jeunes filles et garçons, sans être interrompu, jusqu'à ce qu'enfin l'écrivaine canadienne Denise Bombardier se dise scandalisée et ose l'interrompre, mais elle a été très seule ce soir.
Nicolas Poincaré qui ont perdu sa voix ce matin. Oui. Thierry Moreau, journaliste média, évidemment, je me tourne d'abord vers toi. Est-ce que tu penses que, allez, je veux dire, que Bernard Pivot parlait encore beaucoup à beaucoup de Français? Il parlera encore à beaucoup de Français.
Il parlait quand même aux Français, parce que je rappelle que quand il a quitté la télévision, il s'est mis sur les réseaux sociaux et sur Twitter, il avait un phrasé acéré, des formules très bien ciselées, et donc il existait aussi pour un certain nombre de gens. Moi, je retiendrai surtout ce qu'il a inventé. Il a inventé plusieurs choses. D'abord, il a inventé le buzz, parce qu'on n'appelait pas ça le buzz. Mais quand il met sur un même plateau Georges Brassens et pacifiste et le général Bijard, évidemment, ça pétait. Il a fait comme ça plusieurs émissions, et il a fait ça avant tout le monde, avant De Chavannes, avant tous ceux qui l'ont fait ensuite. Et ça, c'est un truc important. La deuxième chose, il avait une règle que je trouvais très importante et qu'on devrait redire à toutes les émissions culturelles qui sont diffusées, c'est qu'il demandait à tous ses invités de lire les livres des autres pour être capable d'en parler. Et ça, c'est quelque chose, franchement, qui ne se fait plus beaucoup, et c'est bien dommage. Et puis, il a apporté beaucoup, effectivement. C'était une émission, et il n'y en a pas beaucoup, prescriptrice, c'est-à-dire que le lendemain, quand vous étiez passé à apostrophe, et d'ailleurs il y en a qui s'en plaignaient en disant que ça donnait un peu trop le là de la politique culturelle française, ou en tout cas de la consommation culturelle française, mais quand on passait chez apostrophe, on vendait son livre derrière.
Il y avait un tiers, j'ai entendu hier, un tiers des ventes de livres quand il y avait une émission.
Et puis il faisait entre 3 et 5 millions de téléspectateurs, jusqu'à 6 millions dans les trucs. Alors d'abord, il y avait moins de chaînes, et surtout, c'était une deuxième partie de soirée, mais elle commençait à 21h40. 21h40, c'est l'heure à laquelle à peu près nos programmes maintenant.
On n'a pas le temps de déborder, mais Thierry, justement, est-ce que là, c'était vraiment une promesse du service public qui était tenue? Et est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui?
Ah oui, elle l'est tenue. Il y a plein d'émissions aujourd'hui culturelles très intéressantes. Mais oui, il a tenu cette promesse-là. Avant, ça s'appelait Ouvrez les guillemets. Après, ça s'est appelé apostrophe. Il y a eu ensuite Bouillon de culture. Le service public, il y a toujours une tradition d'émissions culturelles.
Daniel?
Bah, ça fait effectivement référence à beaucoup de souvenirs. C'est les grandes heures de la télévision, mais à une époque où la télé, il y avait trois chaînes. Bah, ouais. Et donc, un rendez-vous pareil, c'était difficile de passer à côté. Après, toute la France ne regardait pas. C'était une émission pour un télo, pour prof. Les profs de français, quand t'arrivais à l'école et tu leur disais que t'avais regardé apostrophe, t'as l'impression que tu prenais un point de plus sur la prochaine lycée.
Il y a plus de gens qui disent l'avoir regardé que de gens qui l'ont vraiment regardé.
Exactement, sans parler de ceux qui n'allaient pas au bout, ceux qui regardaient pas. Mais c'était effectivement une sorte d'institution de la télé. Si t'avais dit j'ai regardé apostrophe, on te regardait.
Hormis Alfred, Anne-Sophie, t'es la plus jeune sur le plateau. Est-ce que ça te parle, Bernard Pivot?
Alors oui, mais par contre, je dois reconnaître que je ne regardais pas l'émission. Je savais pas qu'on prenait un point en français en regardant. On aurait dû me dire.
C'était le prof qui t'a fait.
Non, non. Après, ça veut pas.
Le prof qui faisait cette
allusion. Si t'aurais su.
Si j'aurais su, j'aurais regardé. Mais non. Après, moi, du coup, de fait, ce qui est terrible, c'est que je n'ai vu que les extraits controversés, c'est-à-dire Maznev ou l'entretien avec Nabokov, qui est quand même terrible, puisque Pivot fait ce contresens absolu à décrire Lolita comme une perverse, alors que c'était un livre sur la pédophilie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'émission est un peu vieillie.
Après, il est revenu. Hein,
oui. Il a fait 129
émissions.
Et il a dit, voilà.
Dont 3 ont été.
Mais c'est vrai que à regarder, c'est gênant aujourd'hui.
729, oui.